Le journal de Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Léa, bonjour à tous. À la une ce matin, le discours d'un roi, le roi d'Espagne qui pour la première fois s'exprime dans la crise catalane. Un discours d'une fermeté qu'on ne lui a jamais connue jusqu'ici, très critique à l'égard des indépendantistes. Vous l'entendrez en début de journal, ainsi que la réaction d'une famille indépendantiste catalane. Reportage à suivre dans un instant en direct de Barcelone.
Et en direct de Barcelone, vous retrouverez donc votre cher Nicolas Demorand avec Thomas Le Grand, avec Bernard Guetta et de nombreux invités. On va essayer de comprendre la mécanique du mouvement indépendantiste.
Les autres titres, deux jours après la tuerie de Las Vegas, le débat sur les armes à feu aux États-Unis, un débat dans l'impasse totale avec un Donald Trump qui se veut le représentant en chef du plus puissant lobby américain. Le procès Mera, deuxième jour d'audience hier autour de la personnalité du frère de Mohamed Mera, supposé être son complice. Une complicité sans doute dont doute un des enquêteurs. Audience explosive, compte rendu avec Sophie Parmentier. Les Républicains n'aiment décidément pas les divorces. Hier, ils ont encore repoussé l'exclusion des députés Macron compatibles à la semaine prochaine. Au programme également des salariés sans papier qui se rebiffent contre Burger King. Une première médicale entachée d'un mensonge par omission et la sortie mondiale d'un livre historique, l'adaptation en roman graphique du journal d'Anne Frank. Et d'abord retour en Espagne et ce fossé qui se creuse chaque jour un peu plus entre Madrid et Barcelone avec un nouvel acteur qui s'invite dans cette crise historique, le roi Felipe VI. Sa parole est rare et souvent prudente, mais hier soir, le roi d'Espagne a donc prononcé à la télévision un discours d'une sévérité inhabituelle, un véritable réquisitoire contre les indépendantistes.
Nous vivons des moments très graves pour notre vie démocratique. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé, avec l'objectif final du gouvernement régional de déclarer illégalement l'indépendance de la Catalogne. Avec cette décision, le gouvernement catalan a profondément déstabilisé notre système institutionnel, légal et légitime, et a fait preuve d'une déloyauté inadmissible envers l'État espagnol.
Le roi Felipe VI, ce discours, toute la Catalogne l'a écouté hier soir derrière son poste de télé, après avoir manifesté toute la journée dans les rues de Barcelone. Bonjour Géraldine Allo.
Bonjour.
Vous avez suivi cette allocution royale aux côtés d'une famille indépendantiste qui lui a réservé un accueil particulièrement bruyant.
Oui, on l'entend derrière moi, dans le quartier des Champlats, au centre de Barcelone. C'est un concert de casseroles qui a accueilli le discours du roi.
Normalement, le concert de casseroles commence à 22h, mais aujourd'hui, on l'a avancé spécialement pour le discours du roi.
Laura, la trentaine, directrice de la communication dans une entreprise, mère de deux enfants et farouche indépendantiste, a suivi attentivement l'allocution du roi. Elle lui reste en travers de la gorge.
C'est une honte ce discours. Le roi n'a parlé que du respect de la Constitution. Il n'a pas mentionné une seule fois la répression qu'on a subie dimanche et les nombreux blessés. Je suis très en colère et très triste aussi. Mais de toute façon, je n'en attendais pas plus de la part du roi.
Le discours n'aura duré que 5 minutes. Le ton de Felipe VI est martial, cinglant. Il accuse les dirigeants catalans de s'être placés en marge du droit et de la démocratie. Il dit que l'État va rétablir l'ordre constitutionnel. Dani, le mari de Laura, reste bouche bée devant tant de véhémence.
C'est pareil, je suis très déçu. Rien ne change, c'est de l'immobilisme. C'est le même disque rayé qui repasse à chaque fois. Eux, ça leur convient. Mais dans un mariage, s'il y en a un qui veut divorcer, on ne peut pas le forcer à rester. C'est absurde.
Hier, Laura et Dani ont défilé dans les rues de Barcelone. C'était une marée humaine, près de 700 000 personnes d'après la police catalane. Le roi n'a pas eu un mot pour ses manifestants. Visiblement, on n'existe même pas à ses yeux, dit le couple de trentenaires.
Alors Géraldine, que peut-il maintenant se passer en Espagne? Quels sont les scénarios possibles dans les jours à venir?
À ce stade, on ne peut émettre que des hypothèses. Hier, dans une interview à la BBC, le président du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, a redit qu'il voulait proclamer l'indépendance dans les prochains jours. Il a parlé de la fin de semaine ou du début de la semaine prochaine. Carles Puigdemont attend en fait la publication des résultats du référendum au journal officiel pour ensuite les communiquer au Parlement. Et ce sera au Parlement de déclarer officiellement l'indépendance de la Catalogne après avoir voté. Alors que peut faire le gouvernement central si cette cette menace se concrétise, il a la possibilité d'invoquer l'article 155 de la Constitution, jamais utilisé jusque-là. Cet article permet au gouvernement espagnol de prendre le contrôle des institutions d'une région si celle-ci porte gravement atteinte à l'intérêt général de l'État. Autant dire, Sébastien, que pour les indépendantistes, ce serait une déclaration de guerre.
Géraldine Allot en direct de Barcelone avec les moyens techniques de Jérémy Thuil, le 7-9 d'Inter depuis la capitale catalane. On retrouve Nicolas Demorand, ses invités, dans un petit quart d'heure.
Deux jours après le massacre de Las Vegas, le mystère reste entier sur les motivations du tueur.
Oui, aucun mobile à ce jour découvert par les enquêteurs. Interrogés sur les liens possibles entre Stéphane Paddock et l'État islamique, le président américain lui-même a répondu un laconique « je n'en sais rien », ajoutant qu'on savait juste que le tueur était, je cite, un malade, un dément. Alors pour tenter d'éclaircir cette énigme, les enquêteurs attendent beaucoup maintenant de la compagne du tueur, australienne d'origine philippine. D'abord exonérée de toute responsabilité, Marilou Dunley finalement considérée comme un témoin d'intérêt. On a appris qu'elle avait notamment reçu un virement de 100 000 dollars de la part de Stéphane Paddock et elle est arrivée cette nuit à Los Angeles pour s'expliquer. L'autre question, c'est l'ampleur de l'arsenal accumulé par le tueur, une quarantaine d'armes à feu, des milliers de munitions achetées en toute légalité. Et comme à chaque tuerie aux États-Unis, le débat ressurgit sur le contrôle des armes à feu. Un débat qui n'a à peu près aucune chance d'avancer sous le mandat de Donald Trump, relais indéfectible du lobby des armes. Marco Voltaire.
Les armes, on en parlera plus tard, en temps voulu. Donald Trump a continué hier à botter en touche. Il était déjà resté muet sur la question lors de son bref discours à la nation juste après le massacre. On sait la proximité entre le président américain et la NRA, le puissant lobby des armes. Voici ce qu'il déclarait encore en avril dernier lors d'une assemblée de l'organisation à Atlanta. Vous avez un vrai ami et champion à la Maison Blanche. Les agences fédérales ne vont plus s'en prendre aux lois qui respectent les détenteurs d'armes. Le gouvernement ne va plus bafouer vos droits et vos libertés. Nous allons travailler à vos côtés et garantir le droit sacré de chaque citoyen à l'autodéfense. La NRA a dépensé plus de 30 millions de dollars pour soutenir la campagne présidentielle du candidat Trump. L'unique espoir des anti-armes, si mince soit-il, est le caractère imprévisible du président américain qui n'a pas toujours tenu le même discours. En 2000, dans son livre « L'Amérique que nous méritons », Donald Trump s'était dit globalement opposé au contrôle des armes à feu, mais favorable à l'interdiction des fusils d'assaut. À New York, Marco Voltaire pour France Inter.
Et puis Donald Trump lui est attendu aujourd'hui à Las Vegas.
En France, le procès Mérat à la Cour d'assises spéciale de Paris. Le procès Mérat a-t-il basculé hier soir?
Ce qui est sûr, c'est que l'audience a connu un moment troublant en toute fin de journée avec un échange très brutal entre un enquêteur et l'avocate générale qui représente l'accusation. Au cœur de cet affrontement, la déposition inattendue d'un policier affirmant contre la thèse de l'accusation que Mohamed Mérat avait agi en fait en loup solitaire, sans véritable réseau. Une thèse qui a enflammé l'audience. Notre reporter Sophie Parmentier était présente.
Mohamed Mérat a choisi ses cibles seul, défini son mode opératoire seul. Il a agi en loup solitaire, je m'en tiens aux faits. Celui qui s'exprime ainsi à la barre était sous-directeur de la lutte antiterroriste en mars 2012. Il parle d'une enquête hors norme pour cerner Mérat, nouveau visage du terrorisme. Et il répète, Mohamed Mérat était seul à commettre ses crimes. Face à lui, les avocats des parties civiles s'étranglent. Mais vous vous rendez compte qu'avec ce que vous nous dites, on va vers l'acquittement probable des deux accusés, puis c'est l'accusation. Une frêle avocate générale qui se met à hurler sur le policier décontenancé. « Je suis choqué, monsieur le directeur. Vous nous avez dit énormément de choses, mais il y a un fait que vous avez juste oublié, c'est Al-Qaïda. Mohamed Mérat, c'est pas un loup solitaire, c'est Al-Qaïda. Il l'a lui-même revendiqué. » Un avocat d'Abdelkader Mérat demande alors au policier pourquoi le grand frère de Mohamed est accusé de complicité. « On a un faisceau d'indices, dit l'enquêteur. Pas plus. » Tard hier soir, la défense a marqué des points sous le regard attentif d'Abdelkader Mérat qui avait mis ses lunettes comme pour mieux observer ces trois heures d'audience sidérante.
Sophie Parmentier du service police-justice. Le procès reprend aujourd'hui à 9h30 avec la suite de l'audition d'Abdelkader Mérat. Dossier spécial sur le site d'Inter avec un suivi en direct de l'audience sur Twitter. L'enquête semble avancer dans l'attaque de Marseille deux jours après le double meurtre de la gare Saint-Charles par un Tunisien en situation irrégulière. Les services antiterroristes ont mis cinq personnes en garde à vue pour association de malfaisants. malfaiteurs terroristes criminels. En politique, les Républicains ont décidément bien du mal à assumer la rupture. Cela fait des mois qu'ils hésitent à exclure les députés et membres du gouvernement Macron compatible, mais ils semblent enfin avoir trouvé la parade. Plutôt que d'exclure Thierry Soler, Franck Riester, Sébastien Lecornu ou Gérald Darmanin, ils leur ont envoyé une lettre leur demandant des explications. Sans réponse, d'ici une semaine, les Républicains acteront, disent-ils, leur départ. Tout est dans les mots. Le Premier ministre Édouard Philippe, lui, est à la une de Libération ce matin. Interview fleuve sans annonce particulière, sinon cette confirmation que le gouvernement cherche une porte de sortie dans la polémique autour des biens de luxe ostentatoires. Édouard Philippe se dit prêt à augmenter les taxes sur les voitures de grosse cylindrée ou les yachts.
8h10, Sébastien, le géant du hamburger, accusé d'exploiter ses sous-traitants.
Oui, Burger King est occupé depuis hier par des salariés, souvent sans papier, des salariés chargés de nettoyer les cuisines avec des produits ultra toxiques et qui travaillent deux fois plus que ce qu'ils sont payés. Le reportage de Mathilde Dehimi.
Mamoudou tend ses mains brûlées par l'acide utilisé pour dégraisser les machines.
Quand je lave, je n'ai pas de gants, voilà.
Pas de gants, alors Mamoudou, comme Hamid, ont acheté du matériel sur facture non remboursée.
Des brosses, 5,99€ pièce, parce que la société n'achetait rien.
Le sous-traitant Albiance doit fournir les produits, sinon c'est à Burger King de le faire. Défaut de protection, mais aussi heures non déclarées, assure Zuber, payé comme tous 3 heures par nuit.
On n'a pas de droit, on est comme des esclaves. En fait, le travail, c'est pas réalisable en 3 heures. C'est minimum 5 heures.
La direction d'Albiance estime que ces 3 heures sont suffisantes pour le travail demandé. Elle assure découvrir que ses salariés ont été embauchés avec de faux papiers. Eux parlent d'une pratique courante d'un responsable.
J'ai appelé le monsieur, il m'a dit « tu dois faire une carte d'identité fausse, italienne, et après tu viens, je te recrute ».
Ils disent « la française, il y a des problèmes, on ne sait jamais avec l'ERSAF et tout ça ».
La CGT demande la régularisation de ces sans-papiers. Rémi Picot pointe aussi la responsabilité de Burger King.
Burger King a une responsabilité morale. C'est vraiment une façon de casser les métiers, de retirer aussi des responsabilités en termes d'hygiène, de maintenance, de qualité. On sous-traite. Au bout d'un moment, plus personne n'est responsable.
Burger King dit avoir renforcé le contrôle d'authenticité des papiers. La direction d'Albiance doit, elle, rencontrer l'inspection du travail ce matin.
Mathilde Dehimi, la CGT a demandé à rencontrer la direction. Les négociations se poursuivent aujourd'hui. Un vote symbolique mais remarqué la nuit dernière à l'Assemblée. Les députés ont adopté l'article mettant fin à l'exploitation des hydrocarbures en France d'ici 2040, mesure prévue dans le plan Hulot. Une exception à cette fin annoncée, une exception de taille d'ailleurs. L'exploitation du gisement de soufre du bassin de Lacq pourra continuer. À noter aussi cette information du Parisien selon laquelle le ministre de la Transition énergétique réfléchit à taxer les logements mal isolé. Pour accélérer la rénovation des logements anciens, Nicolas Hulot propose de créer un bonus-malus en fonction de la qualité de l'isolation et du chauffage. On en vient à ce mensonge médical très embarrassant, un mensonge par omission. La semaine dernière, dans ce même journal à 8h, nous nous faisions l'écho d'un essai clinique extraordinaire. Un patient dans un état végétatif était passé à un état de conscience minimale avec une activité cérébrale améliorée. Grâce à une méthode de stimulation électrique, une première médicale saluée par toute la communauté scientifique, sauf qu'entre-temps, nous avons appris qu'au moment de la communication de cet essai, eh bien le patient en question était déjà mort. Alors pour quelle raison cette information a-t-elle été passée sous silence? C'est les explications de Daniel Messager.
C'est un essai clinique que toute la presse a salué, même s'il posait des questions éthiques. Mais voilà qu'on apprend qu'au moment de la communication des chercheurs, le patient était mort depuis des mois, ce que Angela Sirigu, qui a co-dirigé cette recherche, ne mentionne jamais lors de l'interview. Voilà même ce qu'elle me répond quand je lui demande ce jour-là si le protocole se poursuit encore.
Maintenant, le protocole pour ces patients, il est terminé.
Mais ça veut dire que chez ce patient, il est revenu à son état antérieur s'il n'est plus stimulé?
Tout ce que j'ai pu rapporter, c'est les résultats des observations que nous avons faites durant la stimulation. J'ai pu rapporter des faits scientifiques, et les faits scientifiques, ils se réfèrent à cette période.
Que le patient soit décédé n'est sans doute pas un fait scientifique. En tout cas, cette omission rend forcément l'expérimentation suspecte. Le décès survenu 3 mois après l'arrêt de la stimulation électrique n'a rien à voir, dit-on, avec l'essai. Le jeune homme est mort d'une affection pulmonaire. Pourquoi alors ne pas l'avoir signalé? Ce qui est certain, c'est que la porte clarté de la communication aurait été bien moindre si l'on avait su que le patient était mort. Et même si cela n'a rien à voir, et même si l'essai demeure intéressant, il y a là un manque de transparence, souligné d'ailleurs par d'autres chercheurs, qui nuit gravement à une bonne compréhension. Et c'est très malvenu en ces temps de défiance à l'égard de la médecine.
Daniel Messager, entre santé et info pratique, attention aux bouchons en région parisienne ce matin. Les buralistes qui contestent l'augmentation du paquet de cigarettes à 10 euros prévoient une opération escargot entre Maison Alfort et le ministère de la Santé dans le 7e arrondissement de Paris. Et ça a commencé. Une cinquantaine de véhicules ont prévu de déverser à proximité du ministère plus d'une tonne de carottes. Des carottes pour réclamer un plan Marshall pour la profession.
On termine avec une première dans le monde littéraire, une adaptation du célèbre journal d'Anne Frank en roman graphique.
Oui, c'est un événement mondial. Ce livre illustré sort dans 50 pays. En même temps, aujourd'hui, l'idée en revient au fond Anne Frank, qui a choisi le cinéaste israélien Ari Folman et le dessinateur David Polonsky, auteurs tous les deux du film d'animation Valse avec Bachir, César du meilleur film étranger en 2009. Un pari risqué, mais un pari gagné haut la main, Ilana Mor-Youssef.
D'abord, il y a l'incrédulité, celle de l'éditeur français du journal, par exemple, Philippe Robinet, PDG de Calman Lévy.
La première fois, je reçois un mot du fond Anne Frank qui nous dit « on va adapter en roman graphique le journal d'Anne Frank ». Je dois vous dire qu'au début, quand on entend ça, on se dit « ouh là là, mais qu'est-ce que c'est ?»
L'idée vient du fond Anne Frank, comme l'explique l'un de ses administrateurs, Yves Kugelmann.
On a commencé avec la question « comment on peut traduire une histoire comme ça pour la génération qui viendra ? Comment on peut raconter une histoire de 1940 ?» aux élèves qui étaient nés en 2004.
Deux ans plus tard, le résultat est là, beau, bien pensé, à la fois fidèle et original. Pour y arriver, il fallait sans doute le talent de David Polonsky et Ari Folman. Tous deux ont commencé par refuser le projet avant de plonger dedans. Ari Folman.
Il faut condenser le texte et l'exprimer en une seule image, qui rendra par exemple les 30 occurrences où elle parle de sa sœur Margot. C'est ça l'adaptation. C'est le journal traduit dans le langage de la bande dessinée.
L'ennui, l'espoir, la peur, les premiers émois amoureux, c'est la voix d'Anne Frank que l'on entend, comme dans le journal.
Ilana Mor-Youssef, le journal d'Anne Frank, roman graphique, est publié chez Calman Lévy en librairie à partir d'aujourd'hui.
Et c'était le journal de Sébastien Logeny. Merci à vous Sébastien.